Le rentier, ennemi de la démocratie. D'autre part, rien ne garantit que la répartition du capital hérité ne finira pas par retrouver ses sommets inégalitaires du passé. Comme nous l'avons déjà noté dans le chapitre précédent, aucune force inéluctable ne s'oppose au retour d'une concentration patrimoniale extrême, aussi forte qu'à la Belle Époque, en particulier en cas d'un abaissement renforcé de la croissance et d'une hausse importante du rendement net du capital, qui pourrait découler, par exemple, d'une concurrence fiscale exacerbée. Si une telle évolution devait avoir lieu, alors il me semble que cela pourrait provoquer des chocs politiques considérables. Nos sociétés démocratiques s'appuient en effet sur une vision méritocratique du monde, ou tout du moins sur un espoir méritocratique, c'est-à-dire une croyance en une société où les inégalités seraient davantage fondées sur le mérite et le travail que sur la filiation et la rente. Cette croyance et cet espoir jouent un rôle tout à fait central dans la société moderne. Pour une raison simple, en démocratie, l'égalité proclamée des droits du citoyen contraste singulièrement avec l'inégalité bien réelle des conditions de vie. Et pour sortir de cette contradiction, il est vital de faire en sorte que les inégalités sociales découlent de principes rationnels et universels, et non de contingences arbitraires. Les inégalités se doivent donc d'être justes et utiles à tous. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, annonce l'article 1er de la Déclaration de 1789, au moins dans l'ordre du discours et autant que possible dans la réalité. En 1893, Émile Durkheim avait même pronostiqué que les sociétés démocratiques modernes ne supporteraient pas longtemps l'existence de l'héritage et finiraient par restreindre le droit de propriété de façon que la possession s'éteigne avec le décès des personnes. Il est d'ailleurs significatif que les mots mêmes de « rente » et de « rentier » soient devenus des mots à connotation fortement péjorative au cours du XXe siècle. Dans le cadre de ce livre, nous utilisons ces mots dans leur sens descriptif originel, c'est-à-dire pour désigner les rentes annuelles produites par un capital et les personnes qui en vivent. Pour nous, les rentes produites par un capital ne sont rien d'autre que les revenus rapportés par ce capital, qu'il s'agisse de loyers, d'intérêts, de dividendes, de profits, de royalties ou de toute autre forme juridique, pourvu que ces revenus rémunèrent le simple fait de posséder ce capital, indépendamment de tout travail. C'est dans ce sens originel que les mots « rente » et « rentier » étaient utilisés au XVIIIe et XIXe siècle, par exemple dans les romans de Balzac et d'Austin, à un moment où la domination du patrimoine et de ses revenus au sommet de la hiérarchie des revenus était parfaitement assumée et acceptée comme telle, tout du moins au sein des élites. Il est frappant de constater que ce sens originel s'est assez largement perdu au cours du temps, à mesure que s'imposaient les valeurs démocratiques et méritocratiques. Au cours du XXe siècle, le mot « rente » est devenu un gros mot, une insulte, peut-être la pire de toutes. On observe cette évolution du langage dans tous les pays. Il est particulièrement intéressant de noter que le mot « rente » est souvent utilisé de nos jours dans un tout autre sens, à savoir pour désigner une imperfection du marché, la rente de monopole, ou plus généralement tout revenu indu ou injustifié, quelle que soit sa nature. Par moments, on a presque l'impression que la rente est devenue un synonyme du mal économique par excellence. La rente est l'ennemi de la rationalité moderne, et elle doit être traquée par tous les moyens, et notamment par celui-ci, une concurrence toujours plus pure et plus parfaite. Un exemple récent et représentatif de ce type d'usage du mot « rente » nous est fourni par l'interview accordée par l'actuel président de la Banque Centrale Européenne au grand quotidien du continent, quelques mois après sa nomination, en juillet 2012. Alors que les journalistes le pressent de questions sur les stratégies à suivre pour résoudre les problèmes de l'Europe, il a cette réponse lapidaire « Il faut combattre les rentes ». Aucune précision supplémentaire ne fut donnée. Il semblerait que le grand argentier avait en tête le manque de concurrence dans le secteur des services comme les taxis, la coiffure ou quelque chose comme ça. Loin de moi l'idée de sous-estimer l'importance du problème posé par les taxis, mais de là à en faire le problème central que le continent européen, voire le capitalisme mondial dans son ensemble, doit parvenir à affronter au cours du XXIe siècle, il y a là un pas que je n'ose franchir. Le problème posé par cet usage du mot « rente » est très simple. Le fait que le capital produise des revenus, que suivant l'usage originel nous appelons dans ce livre « rente annuelle produite par le capital », n'a strictement rien à voir avec un problème de concurrence imparfaite ou de situation de monopole. À partir du moment où le capital joue un rôle utile dans le processus de production, il est naturel qu'il ait un rendement. Et à partir du moment où la croissance est faible, il est presque inévitable que ce rendement du capital soit nettement supérieur au taux de croissance, ce qui donne mécaniquement une importance démesurée aux inégalités patrimoniales venues du passé. Cette contradiction logique ne sera pas résolue par une dose de concurrence supplémentaire. La rente n'est pas une imperfection de marché, elle est au contraire la conséquence d'un marché du capital pur et parfait, au sens des économistes, c'est-à-dire un marché du capital offrant à chaque détenteur de capital, et en particulier aux moins capables des héritiers, le rendement le plus élevé et le mieux diversifié que l'on puisse trouver dans l'économie nationale ou même mondiale. Il y a certes quelque chose d'étonnant dans cette notion de rente produite par un capital et que le détenteur peut obtenir sans travailler. Il y a là quelque chose qui heurte le sens commun et qui, de fait, a perturbé bien des civilisations qui ont tenté d'y apporter diverses réponses, pas toujours heureuses, allant de l'interdiction de l'usure jusqu'au communisme de type soviétique, nous y reviendrons. Il n'en reste pas moins que la rente est une réalité dans une économie de marché et de propriété privée du capital. Le fait que le capital terrien soit devenu immobilier, industriel et financier n'a rien changé à cette réalité profonde. On s'imagine parfois que la logique du développement économique serait de rendre de moins en moins opérante la distinction entre travail et capital. En réalité, c'est exactement l'inverse. La sophistication croissante du marché du capital et de l'intermédiation financière vise à séparer de façon toujours plus forte l'identité du possédant et celle du gestionnaire, et donc le revenu pur du capital et celui du travail. La rationalité économique et technologique n'a parfois rien à voir avec la rationalité démocratique. Les Lumières ont engendré la première, et sans doute s'est-on trop souvent imaginé que la seconde en découlerait naturellement, comme par enchantement. Or, la démocratie réelle et la justice sociale exigent des institutions spécifiques qui ne sont pas simplement celles du marché et qui ne peuvent pas non plus se réduire aux institutions parlementaires et démocratiques formelles. Résumons. La force de divergence fondamentale sur laquelle nous mettons l'accent dans ce livre, que l'on peut résumer par l'inégalité R supérieure à G, n'a rien à voir avec une imperfection des marchés et ne se réglera pas avec des marchés toujours plus libres et concurrentiels. L'idée, selon laquelle la libre concurrence permet de mettre fin à la société de l'héritage et de conduire à un monde toujours plus méritocratique, est une dangereuse illusion. L'avènement du suffrage universel et la fin du cens électoral, qui au XIXe siècle restreignait le droit de vote aux personnes détenant suffisamment de patrimoine, typiquement les 1 ou 2% les plus riches en patrimoine dans les sociétés françaises et britanniques des années 1820-1840, c'est-à-dire approximativement les contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune dans la France des années 2000-2010, a mis fin à la domination politique légale des détenteurs de patrimoine. Mais il n'a pas aboli, en tant que tel, les forces économiques susceptibles de conduire à une société de rentiers. Le retour de l'héritage, un phénomène européen puis mondial? Les résultats que nous avons obtenus concernant le retour de l'héritage en France peuvent-ils être étendus aux autres pays? Compte tenu des limitations des données disponibles, il est malheureusement impossible de répondre de façon parfaitement précise à cette question. Il n'existe apparemment dans aucun autre pays des sources successorales aussi riches et systématiques que pour la France. Plusieurs points semblent toutefois bien établis. Tout d'abord, les données imparfaites rassemblées à ce jour pour les autres pays européens, et en particulier pour l'Allemagne et le Royaume-Uni, laissent à penser que la courbe en U, observée pour le flux successoral en France au cours du XXe siècle, concerne en réalité l'ensemble de l'Europe. Voir graphique 11.12. En Allemagne, en particulier, les estimations disponibles, portant hélas sur un nombre limité d'années, suggère que le flux successoral s'est effondré encore plus fortement qu'en France à la suite des chocs des années 1914-1945, passant d'environ 16% du revenu national en 1910 à tout juste 2% vers 1960. La remontée a été forte et régulière depuis cette date, avec une accélération à partir des années 1980-1990, et le flux successoral annuel est d'environ 10-11% du revenu national dans les années 2000-2010. Le niveau atteint est moins élevé qu'en France, autour de 15% du revenu national en 2010, mais compte tenu du plus faible point de départ vers 1950-1960, la remontée du flux successoral est en réalité plus forte en Allemagne. Il faut en outre souligner que l'écart actuel s'explique entièrement par la différence de rapport capital-revenu, c'est-à-dire par l'effet bêta, étudié dans la deuxième partie. Si le total des patrimoines privés devait atteindre à l'avenir le même niveau en Allemagne qu'en France, alors le flux successoral ferait de même, toutes choses égales par ailleurs. Il est également intéressant de noter que cette forte remontée du flux successoral allemand s'explique pour une large part par une très forte progression des donations, de la même façon qu'en France. La masse annuelle des donations, enregistrée par l'administration allemande, représentait l'équivalent d'environ 10-20% de la masse des successions jusqu'aux années 1970-1980, puis est progressivement montée à environ 60% dans les années 2000-2010. Enfin, le plus faible flux successoral allemand de 1910 correspond pour une part importante au plus grand dynamisme démographique observé outre-Rhin à la belle époque, effet M. Pour des raisons inverses, à savoir la stagnation démographique allemande en ce début du XXIe siècle, il est possible que le flux successoral atteigne des niveaux plus élevés qu'en France dans les décennies à venir. Il en va logiquement de même pour les autres pays européens concernés par le déclin démographique et la chute de la natalité, comme en Italie ou en Espagne. Même si nous ne disposons malheureusement d'aucune série historique fiable de flux successoral les concernant. Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, on constate tout d'abord que le flux successoral avait à la belle époque approximativement la même importance qu'en France, environ 20-25% du revenu national. Le flux successoral s'effondre moins fortement qu'en France ou en Allemagne à la suite des guerres mondiales, ce qui paraît cohérent avec le fait que le stock de patrimoine privé a été moins violemment affecté, effet bêta, et que les compteurs de l'accumulation patrimoniale ont été moins fortement remis à zéro, effet mu. Le flux annuel de succession et donation tombe à environ 8% du revenu national dans les années 1950-1960, puis 6% dans les années 1970-1980. La remontée observée depuis les années 1980-1990 est significative, mais semble sensiblement moins forte qu'en France ou en Allemagne. D'après les données disponibles, le flux successoral britannique dépasse tout juste 8% du revenu national en 2000-2010. Dans l'absolu, on peut imaginer plusieurs explications. Le plus faible flux successoral britannique pourrait s'expliquer par le fait qu'une plus grande part des patrimoines privés prend la forme de fonds de pension et donc de richesses non transmissibles aux descendants. Il ne peut s'agir cependant que d'une petite partie de l'explication, car les fonds de pension ne représentent qu'environ 15-20% du stock total de capital privé au Royaume-Uni. En outre, il n'est pas du tout certain que la richesse de cycle de vie se substitue à la richesse transmissible. D'un point de vue logique, ces deux formes d'accumulation patrimoniale devraient plutôt s'additionner, tout du moins au niveau d'un pays particulier, si bien par exemple qu'un pays reposant davantage sur les fonds de pension pour financer ses retraites devrait se retrouver à accumuler un plus grand stock total de patrimoine privé et, le cas échéant, à en investir une partie dans les autres pays. Si cela se produit au niveau mondial, alors le rendement global du capital pourrait baisser et une plus forte richesse de cycle de vie pourrait en partie se substituer à la richesse transmissible, dans la mesure où un plus faible rendement décourage le second type d'accumulation plus fortement que le premier, ce qui n'est pas certain. Il est également possible que le plus faible flux successoral britannique s'explique par des attitudes psychologiques différentes vis-à-vis de l'épargne et de la transmission familiale. Avant d'en arriver là, il faut toutefois signaler que l'écart observé en 2000-2010 s'explique entièrement par un plus faible niveau des donations britanniques, qui serait resté stable autour de 10% de la masse des successions depuis les années 1970-1980, alors qu'elles sont montées à 60-80% de la masse des successions dans les années 2000-2010 en France comme en Allemagne. Compte tenu des difficultés liées à l'enregistrement des donations et des différences de pratiques nationales dans ce domaine, cet écart semble relativement suspect et on ne peut pas exclure qu'il soit dû, au moins en partie, à une sous-estimation des donations au Royaume-Uni. Dans l'état actuel des données disponibles, il est malheureusement impossible de dire avec certitude si la plus faible remontée du flux successoral britannique correspond à une différence réelle de comportement. Les Britanniques qui en ont les moyens consomment davantage leur patrimoine et le transmettent moins à leurs enfants que leurs homologues français et allemands. Ou bien à un biais purement statistique, si l'on appliquait le même ratio donation-succession que celui observé en France et en Allemagne, le flux successoral britannique serait dans les années 2000-2010 de l'ordre de 15% du revenu national, comme en France. Les sources successorales disponibles pour les États-Unis posent des problèmes plus redoutables encore. L'impôt fédéral sur les successions créé en 1916 a toujours concerné une petite minorité de successions, généralement à peine 2%, et les obligations déclaratives pour les donations sont également limitées, si bien que les données statistiques issues de cet impôt sont extrêmement imparfaites. Il est malheureusement impossible de remplacer entièrement ces données fiscales par d'autres sources. En particulier, les successions et donations sont notoirement sous-estimées dans les enquêtes déclaratives sur les patrimoines organisés dans tous les pays par les instituts statistiques. Il s'agit là d'une limitation majeure à nos connaissances, trop souvent oubliée par les travaux utilisant ces enquêtes. En France, on constate par exemple que les donations et successions déclarées dans les enquêtes représentent à peine la moitié du flux observé dans les données fiscales, qui est pourtant par définition une borne inférieure du flux réel, puisque manquent notamment à l'appel les actifs exonérés, tels que l'assurance vie. Manifestement, les personnes interrogées ont tendance à oublier de déclarer aux enquêteurs ce qu'elles ont réellement reçu, et à présenter leur trajectoire patrimoniale sous un jour qui leur est plus favorable, ce qui est d'ailleurs en soi un témoignage intéressant sur les perceptions de l'héritage dans les sociétés modernes. Dans de nombreux pays, et en particulier aux États-Unis, il est malheureusement impossible de faire cette comparaison avec la source fiscale. Mais rien ne permet de penser que le biais déclaratif soit moins important qu'en France, d'autant plus que les perceptions publiques de l'héritage sont au moins aussi négatives aux États-Unis. Toujours est-il que ce manque de fiabilité des sources américaines implique qu'il est très difficile d'étudier précisément l'évolution historique du flux successoral aux États-Unis. Cela explique également en partie la vigueur de la controverse qui a opposé dans les années 1980 deux thèses rigoureusement inverses parmi les économistes américains, avec d'une part Modigliani, ardent défenseur de la théorie du cycle de vie et qui défendait l'idée selon laquelle les patrimoines hérités représentaient à peine 20-30% du total des patrimoines américains, et d'autre part Kotlikoff et Summers, qui concluaient au contraire sur la base des données disponibles que la part des patrimoines hérités atteignait 70-80% du patrimoine total. Pour le jeune étudiant que j'étais, découvrant ces travaux au début des années 1990, cette controverse fit l'effet d'un choc. Comment peut-on être à ce point en désaccord, surtout entre économistes réputés sérieux? Il faut tout d'abord préciser que les uns et les autres se fondaient sur des données d'assez mauvaise qualité, portant sur la fin des années 1960 et le début des années 1970. Si l'on réexamine ces estimations à la lumière des données disponibles aujourd'hui, il semblerait que la vérité est entre les deux, mais nettement plus proche de Kotlikoff-Summers. Les patrimoines hérités représentaient sans doute au moins 50-60% du total des patrimoines privés aux États-Unis dans les années 1970-1980. De façon plus générale, si l'on essaie d'estimer pour les États-Unis l'évolution de la part des patrimoines hérités au cours du XXe siècle, tel que nous l'avons représenté pour la France sur le graphique 11.7, à partir de données beaucoup plus complètes, il semblerait que la courbe en U, ait été moins prononcée pour les États-Unis, et que la part de l'héritage y soit un peu plus faible qu'en France au début du XXe siècle comme au début du XXIe siècle, et légèrement plus forte dans les années 1950-1970. La raison centrale est la plus forte croissance démographique américaine, qui implique à la fois un plus faible stock de capital relativement au revenu national, effet bêta, et un moins fort vieillissement des fortunes, effet M et mu. Il ne faut cependant pas exagérer cette différence. L'héritage joue également un rôle important en Amérique. Surtout, il faut insister de nouveau sur le fait que cette différence entre l'Europe et l'Amérique n'a a priori pas grand-chose à voir avec une différence culturelle éternelle. Elle semble s'expliquer avant tout par une différence dans la structure démographique et la croissance de la population. Si la croissance de la population est amenée à disparaître un jour aux États-Unis, ce que laissent à penser les prévisions à long terme, il est probable que le retour de l'héritage sera aussi fort qu'en Europe. Pour ce qui concerne les pays pauvres et émergents, nous ne disposons malheureusement pas de sources historiques fiables sur l'héritage et son évolution. Il paraît plausible que si le taux de croissance démographique et économique finit par s'abaisser, ce qui devrait logiquement survenir dans le courant du siècle, l'héritage prendra un peu partout la même importance que celle observée dans tous les pays de croissance faible dans l'histoire. Dans la mesure où certains pays connaîtront une croissance démographique négative, le rôle de l'héritage pourrait même prendre une importance inconnue jusqu'ici. Il faut toutefois souligner que cela prendra du temps. Avec le rythme de croissance observé actuellement dans les pays émergents, par exemple en Chine, il paraît évident que le flux successoral est pour l'instant très réduit. Pour les Chinois d'âge actif, qui connaissent actuellement des taux de progression de leurs revenus de l'ordre de 5-10% par an, il est bien clair que leur patrimoine, dans l'immense majorité des cas, dépend avant tout de leur épargne, et non de celle de leurs grands-parents, qui disposaient de revenus infiniment inférieurs aux leurs. Le retour de l'héritage au niveau mondial est peut-être, sans doute, une perspective importante pour la seconde moitié du XXIe siècle. Mais pour les décennies à venir, il s'agit avant tout d'une réalité pour l'Europe et à un degré moindre pour les États-Unis.